Sud Radio 10h midi, débat.
Et Sud Radio, parlons vrai, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis également sur les réseaux sociaux avec nos débatteurs et leurs coups de cœur et leurs coups de gueule dans un instant. Mais d'abord, on va les saluer. Jérôme Ripoul, bonjour. Bonjour, bonjour, directeur associé de l'agence Comfluence et coprésident d'Opinion Vallée, Alexis Poulain. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve dans la matinale de Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Médibus pour votre édito politique et le petit-déj de l'actualité. Et vous enchaînez donc avec nous ce matin, Geneviève Götzinger. Bonjour Geneviève.
Bonjour Castille.
Bonjour, présidente de l'agence Image. Et puis Patricia Balm aussi. Bonjour Patricia.
Bonjour Christine.
Présidente et fondatrice de PBcom International. Alors, on a un menu chargé aujourd'hui, mais on va d'abord commencer, comme il se doit, vous le savez, par vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. D'abord avec vous, Geneviève. Alors, coup de gueule, vous dites, contre Emmanuel Macron et son discours en matière des droits de l'homme. Rappelez-nous ce qu'il a dit et ce qui vous choque.
Écoutez, double discours d'Emmanuel Macron. D'un côté, il y a cette phrase, ce beau discours hier du président de la République, cette tirade assez forte dans le site géopolitique qui s'appelle Grand Continent. Il se plus que le président d'un certain relativisme en faveur de valeurs universalistes de la part des Nations Unies. Les Nations Unies ne défendraient plus suffisamment bien les droits humains et en fait relativiserait la dignité des personnes humaines. Donc ça, c'est une première chose. Les mots sont forts, ils sont bien, ils sont dans la tradition traditionnelle française de ces valeurs universalistes. Et puis d'un autre côté, il y a les actes du président de la République. Dans le même temps, il fait lui-même preuve d'un certain relativisme, notamment en reconnaissant et en félicitant le président Alassane Ouattara pour sa victoire en Côte d'Ivoire. Une victoire, des curieuses félicitations qui sont un peu honteuses, un peu en catimini, qui ne revendiquent pas réellement, qui en fait sont rendues publiques par la présidence ivoirienne. Réélection qui est en réalité fictive, puisque ce troisième mandat n'est pas légitime et est anticonstitutionnel. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un pays où la France a de nombreux intérêts, mais la réalité aujourd'hui, c'est un pays qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans une dictature, où les questions sont attaquées à la machette, comme Amnesty International l'a redit et l'a dénoncé avec une grande force hier. C'est un pays dans lequel les dirigeants de l'opposition sont emprisonnés, comme le porte-parole de l'opposition, Pascal Affine-Guessan, qui est maintenu à l'isolement depuis maintenant plus d'une semaine, qui est victime de tortures psychologiques, puisqu'il a été pendant 60 heures, il est resté pendant 60 heures dans le noir absolument intégral, en violation de ses droits fondamentaux. Je rappelle que c'est un élu du peuple, un député de la nation. Donc son immunité parlementaire, si on l'accuse de quelque chose, aurait déjà dû être levée. Donc on a envie de dire au chef de l'État, c'est très bien de s'offusquer, de mettre les Nations Unies en cause, mais c'est encore mieux d'agir soi-même plutôt que de donner uniquement des leçons à la communauté internationale. Donc, Monsieur le Président, passez de la parole, qui est très forte, la parole de la France, aux actes, afin que demain, sur l'ensemble du continent africain, en fait, où les peuples nous regardent et nous écoutent et ont une relation forte avec nous, la France ne soit pas victime de ce qu'on appelle à Abidjan d'un boumain, c'est-à-dire en fait d'un chagrin d'amour.
Est-ce que c'est pas de la réelle politique? Patricia, vous voulez intervenir? Patricia
Moi, je rejoins et je partage totalement ce que vient de dire Geneviève Götzinger pour la raison suivante. Au-delà de la politique et de la politique française en Afrique, je dirais qu'il y a un problème de droits de l'homme. Il y a eu des violences terribles de la part du chef de l'État réélu ou non réélu en Côte d'Ivoire. Il y a des détentions arbitraires, il y a une absence totale de démocratie dans ce pays. Et je pense que la France a un rôle à jouer dans la mesure où on prend parti pour certains pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et je pense que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans cette liste noire des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et moi, j'en appelle à tous les Français qui sont soucieux d'humanitaire. Il y a des exactions, il y a eu des exactions terribles. Et je pense que la communauté internationale doit se réveiller. Bravo à Amnesty International qui a dénoncé ces violences, ces exactions et ces détentions arbitraires.
Des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, ça vous rappelle pas quelque chose ?
Pour conclure là-dessus, Christine, effectivement, le chef de l'État a mis en cause hier les Nations Unies sur ce relativisme. Mais en fait, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a réagi, elle, très fortement. contre la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et concernant Pascal Affine-Guesson, dont je disais un mot il y a un instant, il a, au bout d'une semaine, il est toujours à l'isolement, il n'a toujours pas reçu la visite de ses avocats et de sa famille. On ne sait pas où il est aujourd'hui.
Mais il faut ajouter à cela, pardon Geneviève, le nombre de députés de l'opposition incarcérés depuis des mois. Je veux dire, c'est une situation qui ne peut pas durer et qui est scandaleuse. Imaginez des députés français incarcérés pour leurs opinions. On ne peut pas ne pas réagir devant cette catastrophe humanitaire, psychologique, morale.
Et politique.
Et puis, la libre expression. Je veux dire, ça n'existe plus, ça ne peut pas exister dans ce monde. Ne parlons même pas de ceux qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, avec une élection qui a été honteuse, parce que je rappelle que sur 44 personnes qui voulaient se présenter à cette élection, 3 seulement ont été retenues, ce qui n'existe pas ailleurs.
Mais Patricia, dans le monde. Patricia, vous avez la parole. Alors, on va passer d'un coup de gueule à un coup de cœur, et vous voulez l'adresser à cette libraire de Cannes. Hein, on l'a vu un peu partout. La librairie s'appelle Autour de moi.
Alors, cette librairie que je connais effectivement est entrée en résistance, et la propriétaire de cette librairie a décidé d'ouvrir envers et contre tout sa librairie. D'abord pour pouvoir tenir financièrement, parce que par rapport au premier confinement, elle a été dans une situation comme toutes les librairies de France. Et puis, je voudrais saluer aussi, et c'est mon coup de cœur qui est lié à celui-ci, c'est Didier Van Kovelaert, l'écrivain, qui a décidé de soutenir cette librairie, mais en plus, en cas d'amende, il s'engage à payer l'amende pour la libraire. Je trouve que c'est beau, c'est joli, et c'est ce qu'on appelle de la belle résistance à ce moment précis de ce que nous vivons.
Voilà, cette librairie, on en donne ce nom, si jamais vous allez du côté de Cannes, c'est Autour de moi, cette librairie qui a décidé de rester ouverte, et sans doute qu'elle va faire des émules. Hein. Alors, on le redit aussi, il va y avoir sans doute, et on en débattra ensemble, une possible réouverture dès le 27 novembre de certains commerces, c'est la question qui est à l'étude. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupure dans un instant, parce que on va faire l'info de 11h, on va revenir avec vous quatre, chers débatteurs, hein, Jérôme Ripoul, qui est là, directeur associé de l'agence Comme Influence et co-président d'Opinion Valais, Alexis Poulain, journaliste. On vous retrouve tous les mardis sur Sud Radio dans la matinale de Patrick Roger, Cécile de Minibus, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, et vous, Patricia Balm, présidente de PBcom International. Voilà, on va faire la coupure avec l'info de 11h et on continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va parler d'Amazon, on va parler des vaccins, des gilets jaunes, et le menu est très chargé encore pour ce 17 novembre. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et le débat continue, vous le savez, sur Sud Radio jusqu'à 11h avec nos débatteurs. Aujourd'hui, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comme Influence et co-président d'Opinion Valais. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On le retrouve aussi dans l'édito politique sur Sud Radio tous les mardis matins dans la matinale avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Geneviève Götzinger est là avec nous aussi, présidente de l'agence Image, et Patricia Balm, présidente fondatrice de PBcom International. On va continuer avec les coups de cœur et les coups de gueule dans un instant de nos débatteurs, mais aussi le premier sujet qui va s'imposer à nous avec cette loi qui va obliger les médias à flouter tout simplement les images de policiers quand elles arrivent du côté des réseaux sociaux. Alors c'est un vrai débat aujourd'hui, faut-il interdire de filmer la police? On parlera d'Amazon aussi, est-ce que c'est le bouc émissaire idéal et trop facile en cette période de crise économique et crise sanitaire? Et puis ça fait 2 ans jour pour jour que démarraient les premières manifestations des gilets jaunes, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis? Est-ce que la colère sociale est toujours présente en France? Et qu'est-ce que ça peut donner dans l'objectif de 2022? Voilà, nos débatteurs sont prêts, on les retrouve juste après ça, et vous également au 0826 300 300. Donnez-nous votre avis, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Allez, on débat sur les réseaux sociaux, ça a commencé, vous réagissez déjà nombreux à nos questions, nos débats du jour, et également au 0826 300 300, vous avez la parole. Sud Radio, parlons vrai avec nos débatteurs, Jérôme Ripoul, Alexis Poulain, Geneviève Götzinger et Patricia Balm. Alors Geneviève et Patricia, avec vous, on a fait un coup de gueule sur le double discours d'Emmanuel Macron à propos de la situation en Côte d'Ivoire. Patricia, coup de cœur pour la librairie à Cannes qui a décidé de rester ouverte malgré tout. Et là, Alexis Poulain, alors vous, c'est un coup de gueule contre les labos, Alexis, qui annoncent l'arrivée des vaccins. Mais pourquoi donc ? Ça va nous sauver, non ?
Ah, c'est génial. Alors, il faut savoir qu'il y a une course à l'échalote pour le vaccin. Ah ben. Alors, Pfizer a commencé en disant que le sien marchait à 90%. Puis le labo russe a dit que c'était 92%. Et la Moderna a dit que c'était 94,5% pour son vaccin. Il faut savoir que tous ces labos ont publié leurs résultats dans des communiqués de presse et non pas dans des articles scientifiques. Donc, c'est uniquement des annonces qui sont faites pour... Oui, c'est la règle, bien sûr, parce que c'est les marchés financiers qui attendent ça et qu'ils doivent l'annoncer. Et lorsque Pfizer a annoncé son vaccin à 90%, M. Burla, le PDG de Pfizer, a vendu 60% de ses actions pour un montant de 5,6 millions de dollars, où l'action était quasiment au plus haut depuis 52 semaines. Et c'était un plan d'action encadré par la loi de réglementation des marchés. Il avait tout à fait le droit de le faire. C'était un deal qui avait été fait en août où il vendait, le jour de l'annonce, 60% de ses actions. C'est formidable. Sauf qu'aujourd'hui, ces vaccins, eh bien, on n'a pas vraiment les preuves qu'ils fonctionnent à part ces effets d'annonce qui boostent les marchés et qui boostent le portefeuille des actionnaires de ces big pharma qui sont avant tout des grandes entreprises financières. Et moi, je voudrais rappeler au début de cette épidémie comment on a emmerdé le professeur Raoult, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il n'avait pas des études sérieuses. Et il se retrouve devant l'ordre des médecins en ce moment pour l'article 39 du Code de la Santé publique. Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que ces vaccins ne sont pas illusoires et est-ce qu'ils ne sont pas insuffisamment éprouvés ? Alors tout le monde se félicite en disant « c'est génial, c'est la science, c'est fantastique, c'est de l'innovation, c'est super ce vaccin ARN ».
Donc vous remettez en question la fiabilité de ces vaccins ?
Totalement. Aujourd'hui, on n'a aucune étude scientifique publiée qui nous montre quelle est leur fiabilité. Ce ne sont uniquement des annonces financières.
Et on fait... Je laisse les propos de...
Pour charlatanisme devant le Conseil de l'Ordre des médecins.
Enfin, c'est pas tout à fait pareil, charlatanisme.
C'est pas tout à fait pareil. Bah, je viens de vous lire l'article 39.
Bah, c'est
qu'est-ce
des vaccins américains.
Aujourd'hui, on peut pas attaquer les vaccins américains. Ces procédés ne sont pas illusoires ou insuffisamment éprouvés.
Alexis,
c'est on sait Alexis ce qui va faire être le maître étalon. Ces laboratoires, ils ont une responsabilité énorme dans cette histoire.
Surtout celle de faire beaucoup d'argent.
Ils prennent la responsabilité de mettre sur le marché un produit qui peut avoir des effets secondaires.
Déjà, le commercialiser, le fabriquer.
Agnès Pannier-Runacher a bien souligné quelque chose hier. C'est que donc c'est elle qui est responsable de l'achat des doses de vaccins pour la France et elle a dit que elle n'exonérerait pas les laboratoires de leurs responsabilités. Donc autant vous dire qu'un laboratoire, quel qu'il soit, qui va mettre des centaines de millions de doses de vaccin en circulation dans le monde va être extrêmement prudent sur les effets secondaires qu'il aura.
Sur Moderna, c'est génial. Le PDG vous dit, si jamais vous chopez le Covid, avec le vaccin, vous aurez une forme faible. Bah, comme beaucoup d'asymptomatiques aujourd'hui,
Il peut y avoir effectivement des...
Sur
les effets secondaires, ils vont faire attention. Mais sur l'efficacité de ces vaccins, quelle est-elle ? Aujourd'hui, on n'a aucun retour. Et on a l'Union européenne qui en a acheté pour des millions. On a la France qui a acheté déjà les super congélateurs.
Alexis, il n'y a aucun vaccin qui ne vous immunise à vie. Il y a très peu de vaccins qui vous immunisent à vie. Le vaccin contre la grippe, c'est pour la grippe de cette année. C'est pas celle de l'an prochain ou celle de l'année dernière.
On parle du Covid-19. On ne sait même pas de quelle branche on parle de ce Covid-19. Il y aura sans doute un Covid-21, etc. Et là, on nous vend pour des milliards des vaccins qui sont des produits financiers.
Peut-être.
Sans retour sur ces vaccins. Et sans, surtout, l'assurance qu'ils sont utiles et qu'ils fonctionnent. Voilà.
Donc, Alexis Poulain ne se fera pas vacciner, c'est très clair.
La phase 3, attendons la phase 3. Et les études scientifiques seront publiées avant la mise sur le marché. Il y aura, bien sûr, les autorités de santé qui vont valider tout ça.
Mais est-ce qu'Alexis, vous faites plus confiance aux vaccins russes ou aux vaccins franco-américains, puisque, par exemple, Moderna, c'est quand même un Français. Et c'est sa start-up qui a quand même permis de trouver ce vaccin.
Les start-up, c'est des produits financiers aussi. C'est formidable. Moi, je fais confiance aux Russes parce qu'en matière...
Non, je dis start-up parce qu'il a commencé. Quand il a quitté Mérieux, il est allé chercher... Il a pris la tête d'une boîte, ils étaient deux.
Mais il a bien compris ce qu'il fallait faire. Mais son annonce hier, elle était totalement bidon, c'était incroyable. Il vous disait, mais c'est pas grave, vous aurez une forme bénigne de la maladie en vous faisant vacciner. Oui, comme beaucoup de gens aujourd'hui ont une forme bénigne du coronavirus. Il y en a qui sont à l'hôpital aujourd'hui, ils sont plus de 30 000, il y en a qui sont morts, etc. Je ne minimise pas le fait que ce virus est dangereux, extrêmement dangereux, et qu'il a envahi nos hôpitaux et nos rues.
Et donc un vaccin qui ne le rend pas agressif, ça ne va pas.
qu'on est en train d'accélérer tout ce processus d'invention de vaccins, qu'on se félicite, qu'on dépense des milliards sur un produit dont on ne sait rien, dont on ne connaît pas l'efficacité. Quand Raoult disait, bah, attendez, la chloroquine, on peut essayer, ça marche pas, ok, ça marche pas. Le remdesivir, on en a acheté, Véran était génial, oh super, le remdesivir, ça coûte cher, bah, ça marche pas, c'est même dangereux pour les reins. Et là, on nous fait un vaccin dont on ne sait rien, et alors si, ça marche bien pour les portefeuilles d'action, c'est tout. J'attends de voir suite.
Moi, je suis d'accord, Patricia, sur un point avec Alexis, c'est qu'il est extrêmement prématuré de s'emballer sur des vaccins qui ont été testés sur 80 personnes.
Voilà.
C'est irréaliste. Donc, je crois qu'il faut raison garder, qu'il y ait des annonces, effectivement, par rapport au marché boursier, et quand en un jour, l'action de Pfizer se soit emballée, très bien, c'est la loi du marché. Je dis simplement pour les auditeurs qui nous écoutent, avant de se précipiter pour se faire vacciner, nous n'en sommes absolument pas là. Non. Il faut être très prudent avec les vaccins. Bon, il y a les anti-vaccins, on connaît ces gens, mais les vaccins, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça peut être pire que de...
Donc il n'en faut pas de vaccin. Il ne faut pas chercher de vaccin.
Il faut chercher un vaccin.
Parce que tout le monde cherche un vaccin, mais une fois que le vaccin est là, personne n'en veut.
Il faut s'assurer de la sécurité et de l'efficacité.
Non, mais on ne peut pas...
D'abord, il y a l'homologation, il y a les AMM, c'est-à-dire les autorisations mises sur le marché, on n'en est pas là.
Moi, je pense qu'il faut quand même raison garder. Premièrement, on ne va pas reprocher au laboratoire de mettre les bouchées doubles pour essayer de mettre au point un vaccin. Si ça leur bénéficie, Alexia a raison, si ça leur bénéficie économiquement, j'allais dire, tant mieux.
À la base, c'est quand même eux qui mettent les fonds, ce n'est pas les États.
Exactement.
Enfin, je rappelle juste ça.
Exactement.
Le prix achat, c'est question, quand même quasiment
Quand Alexis dit qu'il est rassuré sur le vaccin russe, je vous dis une chose, il n'y aura pas de class action si en Russie, il y a des personnes qui ont été vaccinées qui sont mortes. Ça, il n'y a pas de souci. C'est ça la différence avec quand même nos pays et nos démocraties occidentales. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi un jeu des pouvoirs politiques à ce que les vaccins donnent un horizon quant à la sortie du vaccin. Enfin, les laboratoires donnent un horizon quant à la sortie du vaccin. Il faut se rassurer. Aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement nous dit il faut confiner. La seule solution, c'est le confinement. Mais on nous explique qu'on va continuer. Donc, en fait, il n'y a qu'une solution,
vous parlez,
c'est
de
sortir
de garder la raison. Non, mais vous parlez de garder la raison. Gardons la raison. Ce virus a un taux de mortalité faible. D'accord.
Il est costaud. Et très fort chez les personnes âgées.
Non, mais
très fort chez les personnes âgées.
Attendez. Gardons la raison. Pourquoi vacciner tout le monde pour un vaccin qui, finalement...
Personne n'a dit qu'il fallait vacciner tout le monde.
Par l'annonce de Mme Barr,
personne n'a dit. En disant que il n'y aura pas cette dose de vaccin pour vacciner tout le monde.
Et déjà, il y a le problème, bien sûr, de vacciner tout le monde. Il y a le coût de ce vaccin.
Éventuellement les personnes les plus âgées.
Pourquoi on n'a pas essayé d'autres techniques alternatives qui avaient peut-être fait leur preuve? On n'a pas cherché. Moi, j'attends cette étude indépendante qui va dire ouais, on a tout essayé, on s'est mis d'accord. On a eu droit au bidonnage du Lancet sur la chloroquine, au bidonnage du remdesivir. Et maintenant, on a les annonces financières des labos sur les vaccins. Moi, j'aimerais qu'il y ait des études indépendantes vraiment bétonnées où tout le monde se mette d'accord, international, et on dit ok, on peut y aller, pourquoi pas? Mais là, c'est l'opacité à tous les étages. Et je trouve que, et je ne suis pas complotiste, et je ne suis pas anti-vax. Je pense que les vaccins, c'est un progrès énorme, et j'espère qu'il y aura un vaccin qui va fonctionner et qui va arriver. Mais aujourd'hui, je l'attends. Je ne vois que des annonces financières.
On l'attend tous.
On l'attend tous.
On est tous chez nous, on attend tous pour sortir. On est d'accord.
Bon, on peut sortir, franchement. Vous autorisez à sortir et vous sortez. Hein. Allez-y.
Alexis, vous nous avez mis en forme. Et alors du coup, je repasse la main à Jérôme. Jérôme, alors vous voulez pousser un coup de gueule sur déclaration du patron d'Amazon. Mais Amazon France ou Amazon le vrai?
Amazon France, effectivement, oui.
Je
fais une introduction sur le sujet qui va nous occuper tout à l'heure, mais
on va enchaîner direct avec. Voilà. Donc préparez vos arguments.
Très bien. Et qui fait le lien avec la libraire résistante de Cannes qu'a présenté et à qui a donné un coup de cœur Patricia. En clair, le patron d'Amazon a déclaré hier à la radio que après hésitation, ben finalement ils allaient maintenir le Black Friday. Et je trouve que de la part de ce géant du numérique, c'est quand même 22% des ventes en ligne en France, c'est colossal. Imaginez si à Paris, il y avait un établissement qui faisait 22% des ventes sur le commerce physique. C'est colossal. Comment peut-il s'abstraire de la situation des commerçants? Comment peut-on maintenir une telle iniquité? Vous avez aujourd'hui le premier vendeur sur le numérique culturel, c'est Amazon. Le premier vendeur sur les meubles, c'est Amazon. Donc aujourd'hui, on ne peut pas lui laisser se tailler des parts du marché, des parts de Lyon, sans réagir. Et ça, c'est absolument incroyable. Et d'un côté, on a cette iniquité, vous avez des commerçants qui ont une fermeture administrative et qui ne peuvent pas faire autrement. Et de l'autre, des gens, Amazon en l'occurrence, qui vendent exactement les mêmes produits et qui peut continuer son activité comme si de rien n'était. Donc c'est une alerte parce que aujourd'hui, on se plaint sur les centres-villes qui sont étouffés. Mais ils ont d'abord été étouffés par les supermarchés et les surfaces commerciales à l'extérieur. Et aujourd'hui, peut-être ce qui est le nouveau étouffeur et l'étrangleur des bourgs, c'est peut-être Amazon. Et ça, c'est très, 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 très grave et dramatique.
Alors moi, en sachant que pour contrer Amazon, pour contrer ce Black Friday, le gouvernement réfléchit à une ouverture le 27 novembre, donc le jour du Black Friday, la veille du week-end.
Mais ça veut dire que lui, il modifie les règles pour Amazon, mais il n'en crée pas pour l'interdire de faire un Black Friday.
Et puis tous les commerces en français sont interdits. Des commerces, pendant ce temps-là, Amazon vend au quotidien.
Alexis, Patricia,
c'est deux poids deux mesures. Les commerces vont pas y arriver. C'est pas parce qu'on va ouvrir le jour du Black Friday qu'on va sauver les commerçants.
Hier, on nous disait qu'il fallait. Enfin, on avait un commerçant qui disait qu'il faut au moins ouvrir le 27 parce qu'il y a un week-end derrière et il faut au moins sauver ce week-end-là. Patricia, sur cette notion du Black Friday, mais on restera après sur Amazon.
Moi, je voudrais me faire l'avocat du diable sur ce que vous venez de dire. Il est vrai qu'il y a un scandale Amazon. En effet, je veux dire, les petits commerces sont étouffés, ils vont mourir les uns après les autres. Et c'est de la folie. Mais moi, je suis très libérale. Et je dis, dommage qu'il n'y ait pas eu un Amazon français, l'équivalent d'Amazon en France, pour soutenir tous les petits commerces. Et qu'une entreprise en ligne comme Amazon, c'est-à-dire l'équivalent, puisse, en relation avec tous les petits commerces, vendre ses produits en ligne. Et là c'est un échec de la France. On peut condamner Amazon, on peut ne pas être d'accord, Amazon ne paye pas d'impôts, je sais tout ça et je suis d'accord.
240 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 5 milliards.
Mais qu'on n'ait pas eu l'idée de créer un Amazon, l'équivalent d'Amazon en France, c'est vraiment dommage. Et je pleure parce que c'est ça le vrai libéralisme.
Oui.
Et
on a alors ce matin, il faut de temps sur Sud Radio, sur Sud Radio, il y a Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, qui était l'invitée de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, et elle dit, c'est notre sujet aujourd'hui, elle dit en réalité, il y a une sorte de bouc émissaire, Amazon c'est moins de 5% du commerce français, le commerce c'est les petits commerçants, les artisans et les grandes surfaces, qui représentent en fait tout le reste quasiment, les Français adorent aller dans leur boutique finalement. Ça c'est l'enjeu, dit-elle, j'en appelle aussi à la responsabilité des Français. Utilisons des plateformes françaises. Une taxe, parce que c'était la question qui lui était posée, ce n'est pas possible si elle n'est pas appliquée de manière égale aux autres plateformes. C'est l'égalité devant la loi, un principe de base. Est-ce que donc c'est trop facile aujourd'hui, selon vous, chers débatteurs, de taxer, de cibler uniquement Amazon dans cette histoire?
C'est une réponse un peu décalée, un peu
Geneviève.
Démagogique à une vraie désespérance qui est celle des petits commerçants. Mais enfin, on est quand même dans un schéma mental assez curieux. Alors, on ferme les petits commerces, les commerces dits non essentiels. Ensuite, parce qu'on les ferme, on va fermer dans les grandes surfaces les rayons correspondant aux produits vendus dans ces commerces non essentiels. Et ensuite, on va s'attaquer à Amazon qui va vendre ces mêmes produits en ligne. Mais tout ça est délirant. En fait, repartant de la base, il n'aurait pas fallu fermer les petits commerces.
Bien sûr. Ce qui a été le choix de certains pays. Et je ne comprends pas qu'on s'enferme dans cette folie administrative, l'absurdistan autoritaire qu'on nous impose. On doit s'auto-autoriser à sortir de chez soi. On ferme les boutiques, on ferme les rayons non essentiels. Là, le gouvernement décide par décret si on a le droit ou pas d'acheter des sapins de Noël pour Noël. C'est vous dire le degré
vendredi,
de débilité.
Vendredi, Alexis, vous pourrez trouver votre sapin sur votre parking.
Il faut encore décret, ça prend du temps, c'est compliqué.
Mais le niveau de débilité des lois qui sont en train d'être pondues par ces gens qui n'ont pas à faire, visiblement. C'est dingue. Et derrière, vous avez la réalité des faillites des commerçants, les restaurateurs, les bars, etc., qui, eux, voient très bien que 2021, c'est une année où vous êtes la clé sous la porte.
Alexis, il y a un auditeur sur Twitter qui nous dit, si on arrive à me prouver que là, actuellement, taxer Amazon sauverait nos commerçants et indépendants, je dis ok, mais sérieusement, ça changerait
il s'agit pas de sauver les commerces. Il s'agit pas de sauver les commerces. Il s'agit de mettre un coup d'arrêt à la toute puissance, au déferlement d'Amazon, parce qu'aujourd'hui, Adi Espagnier-Runacher
ce dont on parle depuis tellement longtemps, notre retard abyssal sur tout ce qui est digitalisation, finalement.
Mais c'est vrai, mais on n'est pas les seuls. C'est pas anodin qu'aujourd'hui les deux puissants sur le marché soient d'un côté Alibaba en Chine et de l'autre Amazon aux États-Unis. Donc là on pourrait dire, je me tourne vers les libéraux, peut-être que l'État a pas joué son rôle de stratège. Mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, on a pris un retard qui, à mon avis, me semble très difficile à rattraper.
Mais il est irrattrapable, ce retard. Irrattrapable parce que les lois qu'on aurait dû faire au niveau européen pour se protéger contre Google, contre Amazon, contre ces plateformes mondes, on les a pas faites. On aurait dû les faire en 2010 à peu près. Et on arrive maintenant avec Thierry Breton qui essaye d'être à la manœuvre au niveau européen, qui s'est un peu engueulé avec Sundar Pichai, le patron de Google. Mais c'est beaucoup trop tard. Parce que qu'est-ce qu'ont fait ces plateformes? Elles ont mis tout le monde KO. C'est le tapis. Elles ont racheté petit à petit des petits commerces et tout le monde a fermé boutique. Et donc c'est elles maintenant qui sont les seules. Et là on est en train de leur donner les clés de la maison sans rien faire. Parce que, on ne peut pas les taxer, vous comprenez, il faudrait taxer tout le monde, etc. Non, on peut tout à fait. La politique, c'est justement faire ce genre de choix. Mais on doit le faire au niveau européen, pas seulement au niveau français. Et puis le retard rattrapé, on ne le rattrapera pas. Quand j'entends Bruno Le Maire proposer 500 euros pour que les petits commerces se digitalisent, se numérisent, que comme il ne le dit pas, c'est une insulte. Ce n'est pas avec 500 euros qu'on va faire une boutique en ligne.
Oui, après il y a d'autres plateformes qui marchent très bien. On peut citer la Fnac, c'est Discount, les plateformes aussi. Il y a quand même d'autres
mais
secteurs
parfois monosectoriels, c'est-à-dire qui, contrairement à Amazon, n'ont pas cette diversité, cette palette de services.
Tout ça est un faux process. Ce n'est pas en taxant Amazon qu'on va sauver les petits commerces. Le sujet n'est pas là.
On est d'accord. Mais on est quand même en train de dire, et notamment, rappelez-vous, avec la taxe GAFA en 2018, on est en train de dire à ces géants, attention, la France, ce n'est pas le safari pour vous. Vous n'allez pas venir chez nous et chasser comme vous pouvez. Il y a des garde-fous.
Aider les petits commerces à réussir leur transition digitale, ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel.
Tout à fait.
Patricia, tout à l'heure, est très juste sur le fait qu'on est raté en Amazon française. Aujourd'hui, on a 30% des commerçants français qui vendent en ligne, 72% en Allemagne. D'où vient cet échec? On n'est pas plus idiot que les Allemands. Donc voilà, il y a quelque chose qui a été raté, qui est peut-être rattrapable quand même, Jérôme.
Vous avez tout à fait raison, Geneviève. Moi, je citerai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui défend son secteur avec une hargne qui aujourd'hui est nécessaire. C'est Éric Mertz, qui est le président de la Fédération nationale de l'habillement et qui a dans les cartons, mais depuis des mois et avant même le confinement, qui avait un projet de digitalisation des magasins, des indépendants dans le vêtement. Que n'a-t-il été entendu? Pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à la digitalisation des petits commerces?
Mais c'était un gros mot de dire.
C'est un gros mot, exactement. Donc, je trouve que c'est vrai qu'il faut réussir la transition et il faut le faire très, très vite.
Avec un plan aussi qu'il faut développer, c'est celui donc de l'accessibilité du numérique partout sur le territoire. Et on voit, par exemple, avec l'arrivée de la 5G, que forcément, tout ne va pas, on va dire, simplement dans ces histoires de numérisation, en sachant qu'il y a 2 millions de Français qui ne savent pas utiliser les nouveaux moyens de communication parce qu'ils ne savent pas tout simplement, ou parce qu'ils n'ont pas accès à Internet dans leur territoire. C'est pas forcément race campagne, ça peut être aussi tout près des grandes villes. Allez, on s'arrête un court instant avec vous, chers débatteurs. Dans un instant, on va se poser cette question. Faut-il interdire de filmer la police et la gendarmerie? On détaille c'est l'examen de cette loi polémique sur la sécurité globale qui débute aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et un article qui veut punir la diffusion d'images qui permettent d'identifier tout policier et gendarme dans le cadre de son travail, et ça peut être puni sévèrement. On en parle. Est-ce que c'est une atteinte à nos libertés? On va voir ça dans un instant avec vous et vous, auditeurs de Sud Radio, au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et on est ensemble, en effet, jusqu'à midi avec vous au 0826-300-300, également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur la chaîne YouTube aussi, avec Jérôme Ripoul qui est avec nous aujourd'hui, Alexis Poulain, Geneviève Götzinger et Patricia Balm, nos quatre débatteurs du jour. On va s'intéresser à présent à ce texte examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui projette d'interdire la diffusion dans certaines circonstances d'images qui permettent d'identifier les forces de l'ordre. On se souvient par exemple que sans ces vidéos, il n'y aurait pas eu d'affaire de Benalla par exemple. Syndicats de journalistes et beaucoup d'ONG craignent d'ailleurs que cela n'entraîne l'impossibilité de filmer les policiers et les gendarmes lorsqu'ils sont dans des opérations de maintien de l'ordre. Alors c'est cet article 24 de la loi sur la sécurité globale qui pose problème. Cette question pour vous, est-ce que c'est un recul de nos libertés? Est-ce qu'il faut impérativement protéger les policiers et les gendarmes? C'est ce que disent d'ailleurs les syndicats de policiers qui sont ravis de cette disposition, de cet article de loi. Qui veut commencer les hostilités? Patricia.
Alors moi, je suis évidemment pour le fait que les policiers ne soient pas filmés, qu'ils soient protégés. Et je vais rappeler quelque chose. Aux États-Unis, lorsque les policiers font des enquêtes, ce sont eux qui filment. Et dans les manifestations, ce sont les policiers qui filment. Tout est filmé aux États-Unis. Et je crois qu'en effet, il ne faut pas inverser les rôles. Je pense que les délinquants ne peuvent pas filmer les policiers. Ce n'est pas possible. Maintenant, qu'il y ait des personnes, et je pense à l'affaire George Floyd, et effectivement, là, dans ce cas, c'est un cas particulier où on a filmé la police en train de tuer un homme en direct. Mais en revanche, en ce moment, et compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, je pense qu'il est nécessaire de protéger la police.
Alors, protéger ceux qui nous protègent, c'est l'argument avancé par Jean-Michel Fauvergue, hein, qui est l'ancien patron du RAID,
absolument,
et qui défend, qui est à l'origine de cette proposition de loi.
Je veux bien répondre à ça, parce que j'ai fait mon édito ce matin sur cette loi sécurité globale, qui est une loi de surveillance globale en réalité. Il faut voir qu'en 2017, déjà, les syndicats de police s'étaient émus du fait qu'on pouvait les filmer suite au meurtre odieux du couple de policiers en banlieue parisienne. Et à l'issue de ça, le ministère de l'Intérieur avait commandé 80 000 cagoules, et il avait été question d'élargir le port de la cagoule au-delà des opérations du RAID, du GIGN, des opérations antiterroristes. Et c'est le cas. Vous avez vu, lors des manifestations de 2018-2019, en fait, les 2 ans des Gilets jaunes, la plupart des agents de la BAC étaient masqués. Vous ne reconnaissiez pas leur visage. Et en plus, ils n'avaient pas leur RIO, leur numéro d'immatriculation. Donc on a un vrai problème. Et puis, vous parlez de George Floyd, mais on a eu un cas d'un Français qui a été tué par l'action de plaquage ventral. C'est Cédric Chouviat. Cédric Chouviat qui filmait d'ailleurs pour éviter ce genre de drame. Et heureusement, des passants ont pu filmer et les avocats ont pu se saisir de ces images pour aller à l'encontre des témoignages faux, des faux témoignages des policiers qui avaient tué Cédric Chouviat. Donc on a besoin de ces images et elles existent et heureusement. Alors la question du floutage, elle peut exister, mais je suis désolé que ce soit la défenseure des droits aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tous ont dit que cette loi était dangereuse pour nos libertés et pour tout simplement les libertés des citoyens. C'était un recul phénoménal, fondamental. Et ce n'est pas protéger les policiers, puisque des alternatives existent, le port de la cagoule, par exemple, que d'empêcher les gens de filmer. Et notamment, c'est dangereux pour la liberté de la presse, parce que il y a dans la doctrine telle qu'elle est en train d'être imaginée par Gérald Darmanin, le fait que les journalistes devraient s'accréditer auprès des autorités pour couvrir les manifestations. Or, la charte de Munich et la loi de 1881 et la liberté de la presse telle qu'elle est encadrée dans notre démocratie libérale, si on est encore en démocratie libérale, c'est qu'à partir du moment où on est journaliste, on a le droit d'aller et venir et justement de pouvoir témoigner pour ceux qui ne peuvent pas. Donc là, on est en train, avec cette loi, d'attaquer des libertés fondamentales. Et ça ne doit pas passer.
Patricia, puis après on fera tourner la parole.
Par des délinquants.
Non, mais je ne vous parle pas des délinquants. Vous avez des citoyens qui ne sont pas des délinquants. Prenons Geneviève Le Guay, 73 ans, militante pacifiste. Elle a été bousculée, fracture du crâne, par une charge policière démesurée. C'est l'IGPN qui a jugé. À l'époque, le préfet avait menti pour couvrir les mensonges d'Emmanuel Macron, qui avait dit qu'elle n'avait pas été en contact avec les forces de l'ordre. Voilà le risque qu'on a à partir du moment où on ne pourra plus, nous, citoyens, filmer l'action des forces de l'ordre. Donc il faut que cette loi sécurité, qui est une loi de surveillance et une loi finalement de de couverture des violences policières ne passe pas. Pour moi, je suis absolument contre, comme plus d'une centaine d'associations de défense des droits de l'homme.
Alors, Geneviève, on vous écoute.
Il n'y a pas de couverture des violences policières.
Bien sûr que oui.
Ce mot de violence policière, pardonnez-moi, cette expression de violence policière déjà me choque. Il peut y avoir des actes individuels, mais il y a pas. Quand on parle de violence policière, ça signifierait qu'il y a une espèce de manquement organisé, des fautes organisées, quelque chose de fait sciemment.
C'est le cas de la charge qui a été jugée disproportionnée, qui a été donnée par un capitaine de gendarmerie, qui était totalement disproportionnée. Donc oui, la violence policière, elle existe.
Non, mais quand on dit Alexis, violence policière, ça n'induit pas un mouvement général.
Non, Jérôme, on va laisser.
De la force publique en France. Il peut y avoir des manquements individuels de temps en temps, mais on est clairement dans un pays démocratique.
Et ces manquements peuvent être appelés violences policières. Sans choquer l'institution qui est la police.
Il y a un problème de communication, pardon. Ceux qui sont en danger aujourd'hui souvent sur le terrain, c'est quand même également les policiers. Il y a des appels au lynchage sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont traqués.
C'est la conséquence de la diffusion, ça.
Oui, c'est la conséquence de la diffusion, on est d'accord, mais il y a des agressions de fonctionnaires de police, il y a leurs enfants qui sont traqués dans les écoles. Enfin bon, donc ça, faut aussi le dire. Après qu'on n'empêche pas les gens
de travailler,
évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire.
Et c'est bien pour ça que j'ai parlé du crime audio du coup de police.
Jérôme, je voudrais qu'on entende.
Moi, je pense que le débat, il est beaucoup moins tranché que ça. Moi, je constate une chose. Oui, les policiers ont été mis à rude épreuve ces derniers mois et ces dernières années. Ça induit forcément des tensions supplémentaires chez eux et ça induit aussi une maîtrise plus difficile. C'est une évidence. Mmh. Et on peut parler de violence policière sans dire que c'est systémique. On peut avoir des gens qui sont surmenés, on peut avoir des gens qui sont en difficulté et qui ont un comportement qui effectivement déraille. Ça existe et c'est indéniable. Sans qu'on dise que ce soit systémique. Deuxièmement, il y a la protection. Vous avez parlé, mesdames, de la démocratie en Afrique. Vous voyez à quel point c'est fragile. Vous voyez à quel point un pays qui répondait à des normes démocratiques plutôt conformes aux nôtres peut basculer très rapidement dans quelque chose de différent. Eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est exactement pareil. Oui. C'est qu'on donne des outils. Aujourd'hui, personne ne conteste, le pouvoir est démocratique. Mais demain, qu'est-ce qui nous garantit que les outils qu'on est en train de créer vont pas être utilisés par des personnes qui auront des intentions beaucoup moins sympathiques que celles d'aujourd'hui? Donc moi, je dis aujourd'hui, la priorité… Si on accepte les cas de mise en danger, effectivement, de fonctionnaires, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui un risque terroriste indéniable. On pourrait les flouter, mais empêcher de les filmer, réduire le droit des journalistes, c'est pas entendable.
On va aller tout de suite au standard. Pardonnez-moi, parce qu'il y a Jean-Marie qui nous a appelé au 0826-300.
On a parlé d'accréditation.
Je voudrais qu'on laisse la parole à nos auditeurs. On a Jean-Marie qui vient d'appeler au 0826-300-300 sur ce sujet. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour à tous. Je me permets de vous appeler en effet car je suis scandalisé qu'on puisse discuter d'une loi pareille.
C'est-à-dire
je protège en effet nos forces de police qui sont au devant de tous les soucis, mais je protège aussi avant tout dans ma parole l'être humain. Une dame tout à l'heure de votre équipe soulignait l'affaire George Floyd ou Benalla. Comme quoi, si ça avait pas été filmé, nous n'aurions pas eu d'affaire. Mais comment pouvons-nous savoir s'il y a affaire ou pas si nous n'avons pas le droit de filmer? Et voilà. Il est impossible donc de faire émerger, de faire sortir les soucis que nous avons au quotidien.
La loi ne dit pas vous pouvez pas filmer, c'est la diffusion et le floutage qui est obligatoire. Enfin, en tous les cas, c'est là-dessus que ça va se jouer.
Le floutage, il faut se rendre compte des choses, c'est que personne de citoyen prendra le temps de télécharger un logiciel pour flouter le visage. Donc automatiquement, ça réduit considérablement le nombre de films.
Bien sûr.
Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, si nous avions des forces de l'ordre qui respectaient, heureusement pour nous, ce n'est pas la majeure partie des forces de l'ordre, mais si la minorité respectait
l'immense majeure partie.
C'est quand même une minorité qui maltraite aujourd'hui le peuple. J'espère. Du moins, je me rends pas forcément compte de mon niveau, mais j'espère que c'est une minorité dans la police. Pourquoi allons-nous défendre une minorité ?
Merci Jean-Marie, merci pour votre avis au 0826. Alexis.
Il y a autre chose dans cette loi. Il y a par exemple l'accès par les policiers municipaux aux fichiers du grand bandit, des voitures volées, du terrorisme, qui serait utile pour la coopération entre les services, puisqu'aujourd'hui un policier municipal doit référer à la gendarmerie ou à un officier de police pour avancer. Donc il y a des bonnes choses. Mais ces articles qui posent question, les drones aussi, l'utilisation des drones à toutes les sauces. Alors on a vu un premier confinement, le préfet allemand voulait bien faire joujou avec ses nouveaux jouets qui sont les drones. Il les a sortis tout de suite pour dire rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas de masque, etc. Il n'y avait pas de masque à l'époque. Et puis le Conseil d'État a dit ah non, attendez, il faut encadrer les drones, c'est quand même du grand n'importe quoi. Cette loi veut encadrer les drones de telle sorte qu'on n'aurait plus de vie privée. Parce que le drone pourrait filmer dans votre salle de bain, dans votre chambre, dans votre salon. Un amendement qui avait été déposé par un député PS a été rejeté pour dire que les drones n'avaient pas le droit de filmer dans le cadre privé. Ce qui est en train de se tramer avec cette loi, c'est tout simplement l'effacement de la vie privée. Et la définition d'un régime totalitaire, selon Hannah Arendt, c'est justement quand il n'y a plus d'espace privé. On est en train de mettre ça en place, avec une surveillance panoptique technologique.
Alexis, alors...
de protection de la police. De nos forces.
Non, mais ça n'a rien à voir avec la protection de la police. Là cette loi, il y a tout et n'importe quoi dedans. Et c'est bien le danger. C'est-à-dire que sous couvert de protéger les forces de l'ordre, on est en train de saper nos libertés, de saccager nos
libertés. Alors, il y a un sujet qu'on a abordé, mais je voudrais qu'on retourne au standard parce que ça appelle beaucoup au 0826 300 300. Depuis le Gers, il y a Eric qui nous a appelé. Bonjour Eric.
Bonjour.
Bonjour. Alors, c'est au croisement de nos différents sujets. Vous vouliez réagir au sujet précédent, c'était sur la question d'Amazon. Le bouc émissaire idéal, dit certains, notamment la ministre qui était ce matin notre invitée sur Sud Radio.
Mais oui, tout à fait, parce que moi je trouve que c'est inadmissible. Mais bon, de toute façon, c'est nous les consommateurs aujourd'hui qui regardons à aller acheter des produits toujours moins chers et avec la même qualité. Et sauf que le e-commerce aujourd'hui ne peut pas vivre de ces produits qu'il vend parce que déjà il a des prix qui sont supérieurs aux achats qu'Amazon négocie sur les plateformes des géants, et entre les charges qui sont en France, les loyers, tout ça, oui, aujourd'hui, on s'aperçoit que je viens de traverser une petite commune, là, dans le Gers, et vous passez, et vous avez des panneaux partout à vendre, à louer, à cessation d'activité, tout ça, pourquoi ? Parce que les petits commerces n'arriveront plus à survivre par rapport à ces géants du numérique, et qui font que ça va tuer tous les petits commerces en France. Et moi, j'en suis franchement écœuré. Voilà.
Vous êtes dans quel coin dans le Gers de côté de l'île Jourdain, donc effectivement, vous traversez des zones qui sont proches d'une grande ville, une grande métropole, et qui sont absorbées aussi. La solution, ça serait quoi, finalement, dans cette... C'est à nous de faire le tri, Eric, dans nos achats ?
Mais déjà, c'est à nous de faire le tri. Mais après, le problème qu'il y a, c'est que nous, en France, on exporte nos produits à l'étranger et tout ça, qui font que ça aussi, ça rentre dans la balance commerciale. Mais de l'autre côté, un petit qui veut vendre, qui veut commercialiser les mêmes produits qu'il y a sur le numérique, il n'est pas compétitif du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est comme ce matin, j'attendais un débat de chez vous qui disait que on va prendre un grand groupe qui demain va se retrouver sur le marché de la finance parce qu'il va mettre des actions à la vente, on va dire, sur le marché financier. Ce mec-là, demain, il va se faire, la finance va se faire des portefeuilles, en or. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on oublie, c'est que ces gens-là qui spéculent sur, comme j'entendais sur le directeur de chez Pizer, qui a vendu 60% de ses actifs. Le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là qui financent derrière n'ont pas de TVA, n'ont pas de charges, ils ont rien. Mais par contre, un petit commerçant qui, lui, travaille ouvre le matin, et en plus, dans la crise Covid aujourd'hui, où le gars ne peut même pas mettre la clé le matin dans sa porte pour pouvoir ouvrir le magasin, mais c'est impensable, c'est inimaginable.
Eric, est-ce que je peux vous poser une question d'ordre un peu, pas personnel, mais est-ce que vous avez été, ou est-ce que vous étiez proche des Gilets jaunes, il y a deux ans ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout.
Pas du tout. Ouais. Pourtant, c'est des questions de pouvoir d'achat que vous exprimez là, et notamment une colère sociale et des petits commerçants qui étaient pour certains dans les rangs des gilets jaunes. Merci beaucoup. Alors, je vous pose cette question parce que ça va être le prochain débat qu'on va avoir ensemble. Merci beaucoup, Eric, d'avoir témoigné au 0800 26 300 300. Alors, on était revenu sur le dossier Amazon. La loi sécurité globale, j'aime beaucoup le mot sécurité globale aussi qui est présenté, donc qui est débattu à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale. On va s'arrêter avec nos débatteurs là un court instant. Et on va donc continuer notre discussion autour de l'anniversaire des 2 ans du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis? Est-ce que cette colère sociale sur front de crise sanitaire est-elle toujours présente et en vue de 2022? Là aussi, on vous attend, 0826 300 300. Petit commentaire de Brigitte sur Twitter: pour fêter les 2 ans des Gilets jaunes, le gouvernement nous offre la loi sécurité. Quelle belle attention! Ça, c'est vos commentaires que vous continuez d'envoyer sur le compte de Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Allez, on débat ensemble encore un gros quart d'heure. 0826 300 300, hein, j'allais oublier un chiffre. 0826 300 300. On parle tout de suite de la crise et des 2 ans de Gilets jaunes. Il y a exactement 2 ans, jour pour jour, les premiers ronds-points étaient occupés. Cette crise sociale était partie tout simplement d'une surtaxe, enfin d'une taxe, pas une surtaxe, ça reste une taxe hein, finalement, cher débatteur.
De la hausse du carburant.
Du carburant, absolument. Ça avait mis le feu aux poudres, comme on dit, mais c'était une colère que peu avaient vu venir. Alors, ces 2 ans de Gilets jaunes, qu'est-ce qui a vraiment changé selon vous? Est-ce que le mouvement aujourd'hui peut se radicaliser? Qu'est-ce qui change aussi avec la crise sanitaire qui débouche sur une crise sociale? Et qui pourrait éventuellement porter le flambeau des Gilets jaunes lors de la présidentielle de 2022? Qui veut commencer? Patricia?
Alors, vous venez de rappeler, Christine, effectivement, que ce mouvement a démarré par une colère qui était celle de la hausse du carburant. Et puis, en fait, cette petite colère sur ce sujet a révélé une immense colère sourde qui existait chez les Français sur le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes ne manifestent plus pour cause de confinement et de Covid, mais j'imagine, et j'espère qu'on va sortir de cette crise sanitaire dramatique, mais j'imagine la colère rentrée de ces gens qui ont manifesté sur le pouvoir d'achat et qui se disent aujourd'hui, on a tout lâché, on a lâché des millions d'euros au moment du Covid. Et donc, ça veut dire…
Milliards même.
Qu'il y avait, pardon ?
Des milliards, 17 milliards.
Bien sûr. Et donc, j'imagine l'après-Covid, j'imagine l'après crise sanitaire, avec un retour d'une colère bien plus importante qui risque de se manifester. Et là, où va-t-on? Est-ce qu'on va vers une guerre civile? Est-ce qu'on va vers… Voilà. À mon avis, ce Covid a révélé quelque chose que les Gilets jaunes réclamaient, qu'ils n'avaient pas obtenu, qui était le problème du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on se dit, mais le gouvernement… on avait encore sous le tapis, si je puis dire.
Moi, je fais une analyse, Christine.
Jérôme.
Je fais une analyse sur cette crise de la difficulté qu'a Emmanuel Macron à gérer les marges de la société. C'est-à-dire que le premier mouvement des Gilets jaunes, ça a été les marges de la société, effectivement, ceux qui étaient en difficulté parce qu'ils travaillaient et ne gagnaient pas assez pour vivre. Et là, on va avoir une deuxième marge, c'est ce que j'appelle ça va être les vestes jaunes, hein, c'est-à-dire les commerçants, les indépendants. C'est la France qui prend des risques et qui aujourd'hui va se retrouver sans amortisseurs sociaux. Parce que les Gilets jaunes, ils avaient quand même encore la possibilité de faire appel à des amortisseurs sociaux. Alors l'État aujourd'hui joue les amortisseurs sociaux pour les indépendants, les commerçants, mais à long terme, il n'y en a pas, il n'en existe pas, il n'y a pas de chômage pour eux, il n'y a pas de solution. Donc je pense que la problématique de Macron, c'est aujourd'hui de gérer les marges. C'est-à-dire que globalement, la population, il dit, vous inquiétez pas, coûte quoi que ça coûte, je vais délivrer. Mais il y a toujours des gens avec lesquels il y a des difficultés. Et les commerçants, c'est en ce moment, c'est nettement le problème.
Alors là, on se focalise sur la question de Macron vis-à-vis des Gilets jaunes. Oui. Mais moi, la question que je vous pose, c'est où sont les Gilets jaunes aujourd'hui? Enfin, puisque on voit que le mouvement, c'est malheureusement, enfin, en tous les cas, c'est délité par petites touches, et c'est même s'il a tenu dans certaines villes de très longtemps avec des manifestations, mais le mouvement, au bout d'un moment, s'est quand même essoufflé, même si la colère est toujours là. Donc, qu'en reste-t-il? Où sont-ils?
Ils sont partout.
Et peuvent-ils agréger un candidat pour 2022?
Alors,
aujourd'hui, enfin, les nouveaux gilets jaunes ou les futurs gilets jaunes, toutes les personnes dans ce pays qui vont se retrouver ou qui se retrouvent en situation de précarité, c'est les commerçants. C'est les restaurateurs,
des chômeurs de longue durée.
C'est de la culture vivante. On n'a pas parlé de la culture vivante. On a l'impression là d'un trou noir sans aucune perspective. Plus personne n'en parle. Michel Bachelot.
Mais attendez, vous parlez de question de pouvoir d'achat, mais je me souviens aussi que les gilets jaunes, c'était aussi une question de démocratie qu'ils demandaient.
C'est là que je voulais
une refonte de la démocratie. Peut-être que tous ceux qui vont perdre leur emploi avec la crise du Covid ne sont pas à ce point de débat et en tous les cas de réflexion et de volonté de modifier ce qu'on connaît aujourd'hui.
2018, les gilets jaunes, c'est les canaris dans la mine. C'est l'alerte qui est lancée pour dire il y a un séparatisme de caste, il y a une lutte des classes qui ne dit pas son nom, qui est revenue très forte, avec des gens qui pensaient faire partie des gagnants et qui se rendent compte que finalement, non, ils n'ont pas le pouvoir d'achat escompté et ils vont vers une paupérisation grandissante. Le Covid n'a fait qu'accélérer ça, les politiques d'Emmanuel Macron n'ont fait qu'accélérer ça, et effectivement, il y avait une aspiration à une démocratie réelle, parce qu'aujourd'hui, on a une parodie de démocratie où finalement, c'est une plutocratie. C'est l'argent qui fait le candidat et c'est l'argent qui fait l'élection. Et eux voulaient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il y a eu le vrai débat des Gilets jaunes, il y a eu les cahiers de doléances, et puis Emmanuel Macron a enterré tout ça sous une campagne de com' pour les européennes qui s'appelait le Grand Débat. Les cahiers de doléances, ils sont enterrés dans les sous-sols de la BNF. Et il y a eu cette mise en scène du président qui a monologué pendant 3 semaines pour dire non, mais c'est bon, je vous ai entendu, c'est bon, passons. Autre chose, et puis j'ai donné des sous. Et aujourd'hui, on a les mêmes au pouvoir qui sont en train d'organiser une faillite généralisée du pays. Et tous les gens qui regardaient les gilets jaunes sur le côté de la route sont en train de se dire mais j'en suis un en fait. Je suis en train de me faire avoir par ce
gouvernement. Vous voulez dire quoi, Alexis, qu'il y a des gens au pouvoir qui organisent la faillite de la France?
Bien sûr. Qu'on ferme tous les commerces, qu'on empêche les rayons essentiels d'être ouverts.
Alexis, pardonnez-moi. Est-ce que je peux juste poser une question sur cet argumentaire-là que l'on entend, que l'on voit circuler? Vous pensez que donc les gens qui sont actuellement aux responsabilités se lèvent le matin en disant je vais détruire le pays dans lequel je vis et dans lequel j'ai grandi?
Quand vous êtes capable de prendre du temps pour un décret pour savoir si on achète ou non un sapin de Noël, d'empêcher les enfants d'aller dans les rayons jouets des grandes surfaces, de fermer les petits commerces,
en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne,
de cet absurdistan autoritaire, vous n'avez pas le bien du pays au cœur, croyez-moi. Vous êtes totalement largué.
On peut pas dire qu'en fait il y a une programmation de la suppression du barasbe économique.
Le résultat de cette politique, mais évidemment qu'il n'y a pas un plan. Ces gens-là sont idiots, mais ils pensent faire le bien.
Fantastique. C'est ce que vous venez de dire. Là, vous avez été en plein complot.
Non, c'est ce que vous me faites dire. Je dis que la faillite est organisée parce que les lois qui sont prises aujourd'hui, les mesures de l'absurdistan autoritaire vont précipiter les faillites. On est en train, ce que dit l'économiste David Kella, de soutenir une économie zombie et de juste prendre un peu de temps pour que les faillites soient étalées dans le temps et que ça ne se voit pas trop. Mais le plan de relance de 100 milliards ne va pas aller aux entreprises qui en ont besoin. Les aides sont allées aux entreprises qui ont continué de verser d'ailleurs des dividendes aux actionnaires.
C'est l'étude de l'Institut des politiques publiques.
Absolument. Donc je cite des sources, j'ai jamais été conspi, je suis anti-conspi, donc arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas à dire. Mais les politiques aujourd'hui mises en place, sont en train de préparer une faillite. Et je suis désolé, rien n'est fait pour revenir en arrière. Par souci d'ego, par problème de conseil de défense,
Christine, sur est-ce que là, il peut y avoir une traduction politique. Je crois qu'on a des exemples dans l'histoire politique française, notamment le poujadisme, le sidunati, qu'il peut y avoir des vagues qui peuvent porter effectivement, alors je pense plutôt à des législatives qui peuvent porter un certain nombre de députés, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que premièrement, il faudrait que ce mouvement se dote d'un leader ou d'une leader.
Ce n'a jamais été le cas, ça a été très compliqué.
Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait des élections dans lesquelles ces mouvements puissent avoir des élus. Mmh. Or, on sait que la présidentielle aujourd'hui, c'est elle qui fait l'élection législative. Donc, on voit bien qu'il ne pourra pas y avoir d'émergence au niveau de l'Assemblée. Enfin, au niveau régional, les régions sont tellement devenues énormes que les partis ont la main dessus et que ont une prime énorme.
Est-ce que la question, est-ce que on met beaucoup de choses finalement sous le terme gilet jaune alors qu'il reflète beaucoup de choses à l'intérieur même de cette appellation.
C'est la des classes moyennes, c'est ce que dit Alexis. Oui. C'est-à-dire que c'est le délitement de la société et les gilets jaunes, c'était le bas de la classe moyenne. Et aujourd'hui, les indépendants, les commerçants, c'est le cœur de la classe moyenne. Et ce qui est en train de disparaître aujourd'hui, c'est cette classe moyenne. Donc, il y a une gilet jaunisation de la société, ça, c'est indéniable. Et ça, je pense que c'est la vraie question qu'on peut avoir.
Est-ce que ça peut percoler?
C'est la précarisation de la classe moyenne qui est pour l'instant masquée par une distribution d'argent public.
C'est ça. Et étatisation de la dette privée.
Il y a un moment où les dépenses publiques explosent, où effectivement, on ne sait plus comment les compenser.
Ça, vous avez raison, c'est la vraie inquiétude.
On fait de la dette, c'est ce que je vous dis quand je parle de faillite organisée. Donc, vous voyez, cette dette-là, on ne sait pas comment on va la gérer.
Attendez, pas tous en même temps, pardonnez-moi. Ouais, Geneviève, Alexis et Patricia.
Organisée, c'est quelque part subi aussi. C'est quelque part subi aussi, simplement. Vous avez une base fiscale qui se rétrécit de plus en plus, avec les impôts les plus élevés au monde déjà, enfin parmi les plus élevés au monde, et une précarisation des classes moyennes. Et pour l'instant, des dépenses publiques qui explosent, mais qui ne pourront pas exploser comme ça de vitamine.
Pour rebondir sur l'expression qu'a employée Jérôme...
Patricia.
Pour rebondir sur l'expression que vient d'employer Jérôme sur la gilet jaunisation de la société, je crois qu'il a raison. Et que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur pour une raison. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les colères vont se rejoindre et la colère des petits commerçants va rejoindre et il va y avoir une cristallisation de la colère et qui va devenir peut-être cette gilet jaunisation de la société dont il parle.
Elle est déjà là. Je voudrais citer une étude, je crois, du Cevipof qui est sortie ces jours-ci, qui disait qu'au premier tour de 2022, 70% des Français étaient prêts à voter pour un vote contestataire. C'est-à-dire le tout sauf Macron sera là.
Macron, en sachant qu'il y aura 16 ou 17 listes, hein, parce que je ne sais pas combien de candidats sont déjà
déclarés. On est loin encore de l'élection. Mais c'est dire que ce mouvement profond, s'il trouve une incarnation, il pourrait effectivement renverser la table. C'est exactement ce qu'a fait le 5 étoiles en Italie. Il s'est appuyé sur les anti-vax, sur pas mal de conspires, etc. Il y a eu toute une campagne anti-élite, anti-système,
etc. Ce sont des mouvements de courte durée.
Ce sont des vagues, ce que vous disiez, Jérôme.
Qui peuvent s'incarner dans les législatives post-2022.
Voilà, mais tout ça, ça nous promet de débats riches, animés et avec vous. Merci beaucoup à tous les quatre, Jérôme Ripoul, Alexis Poulain, Geneviève Götzinger, Patricia Balm, d'avoir été avec nous, les débatteurs du jour, dans ce 10h midi. Dans un instant, vous allez retrouver André Bercoff et on se retrouve pour un 10h midi, évidemment, dès demain. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.